VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. La situation humanitaire se dégrade en Centrafrique en raison de la hausse des violences et de la multiplication des foyers de tension entre septembre 2016 et le premier trimestre 2017. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. L'agence onusienne fait état de plus de 100 000 nouveaux déplacés, ce qui porte leur nombre total à 402 240 en RCA. Il y a en outre près de 500 000 réfugiés centrafricains dans les pays limitrophes, pour un total de quelque 900 000 déplacés et réfugiés, soit un centrafricain sur cinq. L'ONU, qui déplore une baisse du financement de l'aide internationale, note que la Centrafrique est le seul pays au monde où la moitié de la population survit grâce à l'assistance humanitaire, soit 2 200 000 personnes. Au Nigeria, incursion des combattants du groupe djihadiste Boko Haram hier soir à Magoumeri, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Des assaillants ont pillé et incendié des maisons et emporté toute la nourriture qu'ils ont trouvée, a déclaré à l'AFP un habitant Koulo Shérif qui a réussi à s'échapper et à regagner la ville ce matin. Magoumeri, qui comptait plus de 100 000 habitants avant le début de l'insurrection islamiste de Boko Haram en 2009, était pourtant considéré comme relativement sécurisé, mais les forces de l'ordre sur place dans une base militaire et un commissariat de police se seraient rendues après avoir été attaqués par les djihadistes, selon Babakoura Kolo, un membre des milices civiles. Pour sa part, l'armée nigériane assure avoir repoussé les assaillants, neutralisé un grand nombre d'entre eux et confisqué 3 véhicules et de grandes quantités d'armes et de munitions. Selon le milicien Babakoura Kolo, les pillages à répétition indiquent que les combattants de Boko Haram sont affaiblis et motivés par la faim, vu le manque de nourriture en brousse. Au Rwanda, 44 musulmans rwandais accusés de terrorisme et arrêtés après que la police eut abattu début 2016. Un religieux musulman soupçonné de recruter pour le groupe État islamique ont comparu hier devant la haute cour de Kigali. Les précisions de John Lindon.
La justice rwandaise n'a pas publié d'acte d'accusation pour ces 44 hommes et femmes, parmi lesquels figurent quelques mineurs. Augustin Kabeya, un de leurs avocats, a indiqué que si les charges diffèrent d'un accusé à l'autre, elles sont toutes liées au terrorisme. À ce jour, aucune attaque terroriste djihadiste n'a été recensée sur le territoire rwandais. Mais les autorités avaient assuré en janvier 2016, sans en apporter la preuve, avoir détecté la formation des réseaux terroristes et plusieurs interpellations avaient suivi. Ces accusations avaient fait suite à la mort en janvier 2016 d'un religieux musulman soupçonné de recruter des jeunes pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Hier, lors d'une des rares audiences publiques depuis le début de cette affaire sensible, les juges ont décidé de repousser l'ouverture du procès au 4 avril après l'avoir déjà reporté précédemment, la défense demandant plus de temps pour prendre connaissance du dossier d'accusation.
Autre procès en Afrique, en Côte d'Ivoire, les avocats de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, demandent la reprise totale du procès. Les précisions d'Azuma Compaoré.
L'équipe de la défense de Mme Gbagbo a quitté le tribunal mercredi après avoir, pendant une heure, dénoncé l'irrégularité de la constitution de la cour. Ils estiment que l'un des assesseurs avait été remplacé sans respecter le mode de désignation. Des griefs que le président de la cour d'assises, le juge Kwadjo Boigui, a rejetés, faisant valoir que l'irrégularité de la cour d'assises ne peut être constatée que par la cour suprême. L'audience a été ajournée à mardi. Une nouvelle fois, l'ancienne première dame était absente du tribunal. Madame Gbagbo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier d'Abidjan durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime. Ses avocats ont été commis d'office après le retrait de ses conseils. Mardi, le procureur général Ali Yeo les a accusés de vouloir saboter le procès.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, grogne au Centre national de réhabilitation des handicapés à Yaoundé. Le personnel réclame l'application de son nouveau statut adopté il y a déjà 8 ans. D'où la grève pacifique entamée par les employés en début de semaine. Un arrêt de travail qui paralyse les services du centre. Reportage sur place de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
Il ne fait pas bon vivre au Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Les travailleurs sont sans salaire et sans motivation. Ruben Djumou, délégué du personnel.
Nous sommes au troisième mois sans salaire. Ce n'est pas parce que l'argent manque. Nous sommes convaincus que ces moyens sont arrivés ici au centre. Mais ça ne nous a pas été donné. Un malheureux ne peut pas s'occuper d'un autre malheureux. C'est pour cela qu'on revendique.
Le Centre national de réhabilitation a aussi un volet formation qui se meurt. Nous sommes dans un atelier de menuiserie en cessation d'activité ce jour.
Je suis donc formateur en menuiserie. Qu'une machine ne fonctionne sur toutes les machines qui sont en face de vous. Au bout des petites pannes, nous sommes obligés d'aller raboter aussi les planches à l'extérieur et revenir ici leur montrer comment monter tel ou tel ouvrage.
L'atelier de couture ne présente non plus meilleur visage. L'insuffisance du matériel est anecdotique. Une élève raconte.
Dans les 17 machines, il y a seulement 2 machines qui fonctionnent. Par exemple, comme quelqu'un veut voler la carrue, le temps qu'elle termine au colmos, je profite. Quand elle revient, j'attends. Quand elle va se lever, je reviens. C'est comme ça que nous, on fonctionne.
Les patients grincent également les dents contre le Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Madame Concorde Bindi n'a pas eu droit aux soins du jour. Mais il y a pire ici, dit-elle.
Il n'y a pas d'eau courante. Je suis handicapée, je ne peux pas marcher avec mes deux pieds pour venir puiser l'eau dans le puits. Il faut que quelqu'un d'autre à épuiser l'eau pour que je me lave avec.
Sans eau courante, depuis des années, les robinets et la piscine de rééducation du centre sont à sec. La buanderie a pris feu il y a quelques mois et n'a pas été réhabilitée. C'est fort de tout ceci que le syndicat pour l'émergence du social au Cameroun a appelé à la grève pour sauver la dignité du centre et de tous les patients. Romain Rolangor, président du syndicat.
Les pouvoirs publics allouent d'énormes sommes d'argent à cette structure. Nous avons un contrat plan qui s'élève à 4 milliards de francs. Nous avons un budget de près de 500 millions. Et je vous demanderai même de passer dans les dortoirs, les chambres, et vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Cette politique de façade, on ne peut pas la laisser perdurer.
Sans réel pouvoir, face aux multiples doléances, la directrice du Centre national des handicapés est consciente du malaise, Grâce Fomelu.
Je résous ce qui relève de ma compétence et ce qui relève des compétences de conseil. Je prépare le dossier pour le conseil.
Est-ce que le conseil d'administration est informé de ce qu'il n'y a pas d'eau courante pour les patients du centre?
La commission des passation de marché du centre a passé cette marché à un individu qui, à la dernière minute, nous a laissé et n'a pas réalisé ça.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA, Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. Un juge fédéral de Hawaï a mis un coup d'arrêt mercredi au second décret du président Donald Trump sur l'immigration à la veille de son entrée en vigueur ce jeudi matin. Le nouveau décret signé le 6 mars visait à remplacer la première ordonnance adoptée en janvier qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension en février par un juge fédéral de l'État de Washington. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
À quelques heures seulement de l'entrée en vigueur du nouveau texte qui avait pourtant été expurgé de ses éléments les plus contestés, le magistrat de Hawaï, Derek Watson, a estimé dans son jugement que la suspension temporaire du décret éviterait un préjudice irréparable. Tenant une réunion publique à Nashville, dans le sud, le président américain a dénoncé la décision erronée d'une justice qui, selon lui, commet ainsi un abus de pouvoir sans précédent. Il a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. Pour expliquer sa décision, le juge Watson s'appuie notamment sur plusieurs déclarations de Donald Trump à l'égard des musulmans pour conclure que le décret comporte des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse. Sa décision fait référence à des propos de campagne de Donald Trump lorsqu'il s'était prononcé pour une interdiction d'entrée des musulmans sur le territoire américain. Le texte controversé qui bannit l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans devait être appliqué à partir de mercredi à minuit, heure de Washington, soit jeudi 4 GMT. Deux autres audiences se sont également déroulées mercredi au Maryland et dans l'État de Washington qui ont donné lieu à de vives joutes sur ce décret migratoire.
États-Unis toujours, Washington a annoncé hier l'ouverture de poursuites judiciaires contre 2 espions russes et 2 pirates informatiques. Le ministère américain de la Justice les accuse d'être responsables du piratage d'au moins 500 millions de comptes Yahoo entre 2014 et 2016. Il s'agit d'une cyberattaque considérée comme l'une des plus importantes jamais réalisées dans le monde. Et c'est la première fois que le gouvernement américain entame des poursuites contre des ressortissants russes. Les deux espions Dmitri Tukhuchaev et Igor Chukin appartiennent au service fédéral de sécurité, le FSB, qui a remplacé de KGB en Russie, quant aux 2 hackers, il s'agit d'Alexei Belon et de Karim Baratov. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.